bon pour la santé.
On pourrait dire de notre prochaine invitée qu'elle est chouchou. Et même si elle n'a pas la langue dans sa poche, elle écrit des livres qui font du bien, particulièrement aux femmes. Elle ose parfois user du ludique pour initier des débats, à nu. On reçoit aujourd'hui la chroniqueuse, animatrice, comédienne et auteure Guylaine Gay. Vous l'avez trouvée truculente à l'émission Marina à Radio-Canada, mais aussi dans la peau de Margot dans l'émission Jeunesse Brigade Animaux, diffusée sur la même chaîne. C'est normal, on la rencontre avec plaisir depuis près de 20 ans, des lionnes à Marina à la télévision. Elle s'est aussi commise 4 fois par des livres qui résonnent encore et par des sorties publiques, disons, imagées. En 2013, après que des fémènes dénoncent la présence du crucifix en dévoilant leurs seins à l'Assemblée nationale, elle crée le buzz sur Twitter en arborant des seins de plastique pour dénoncer le manque de services aux parents d'enfants autistes. Elle est d'ailleurs maman de garçons à la mer. Comme elle l'écrit dans son livre, elle est maman d'enfants qui se retrouvent quelque part sur le spectre de l'autisme, comme près de 2% de la population. On reçoit cette femme qui nous anime, qui nous sensibilise maintenant à la périménopause, même si moite et velue. Accueillons la dame mature, Guylaine Gay.
Ici Catherine Bourderon, avec le docteur Baruel, bonjour.
Bonjour.
On plonge dans l'univers de Guylaine Gay. Bonjour Guylaine.
Bonjour, bonjour, merci pour l'intro. Formidable, j'ai fait tout ça moi, c'est beau.
Mais oui. On va faire une émission aujourd'hui à partir de vos préoccupations santé. On accueillera pour ce faire les chroniqueuses et invitées, Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, qui va nous expliquer le flexitarisme. Éric Beauchemin avec nous, directeur général de l'Association des camps du Québec, pour présenter la participation des enfants ayant des besoins particuliers dans les camps du Québec. Et Sonia Boucher, intervenante en santé sexuelle, pour parler de la sexualité au temps de la périménopause. J'interviendrai quant à moi pour faire entendre tous vos autres sujets santé.
Mais merci François, on y compte bien. Bonjour Guylaine Gay.
Bonjour Catherine, ça va?
Quand on vous regarde ou vous entend, vous êtes vraiment une source d'inspiration. Vous avez une joie tellement communicative, ça vient d'où ça?
Je suis bien née à ce niveau-là. Je pense pas. Je pense être tombée dans un baril de joie à la naissance. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu tout simplement. Ça se cultive aussi la joie. Donc j'ai trouvé des outils au fur et à mesure. La cinquantaine s'en vient, donc j'ai quand même un peu d'expérience. Mais d'ores et déjà, j'ai toujours eu moi un optimisme, une joie de vivre, puis une bonne humeur. J'ai toujours eu ça moi dès très tôt.
Mais c'est ça, vous êtes positive et lorsqu'on lit votre vie, votre père nous a quittés en décembre, votre sœur est décédée du cancer du sein. Vous avez quand même vécu des épreuves pour votre jeune âge quand même. Comment on peut faire ressortir la bonne humeur, cette joie de vivre malgré des deuils à répétition? C'est quoi le secret pour essayer de ressortir, mettre la tête au-dessus de l'eau?
Je pense vraiment que, en tout cas, la façon qui est bonne pour moi, c'est premièrement d'accepter la situation. Donc, quand quelque chose se présente, l'adversité, ça se présente sous différentes formes pour chacun et chacune. Donc, quand l'adversité se pointe le nez, c'est de la regarder droit dans les yeux, c'est de faire, bon, ben ça arrive. Puis d'accepter le déni, je pense que ça allonge la souffrance, ça met du feu, de l'huile sur le feu un peu, je pense, de la souffrance, le déni. Moi le déni, je vis pas ça. Quand quelque chose arrive, je me dis, bon, ben c'est ce qui arrive. Je dis pas qu'il n'y a pas de tristesse, je dis pas qu'il n'y a pas de peine, il y en a. Mais par contre, j'essaie de voir vers l'avant au lieu de voir vers l'arrière. Donc, la vie continue. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon père durant les dernières heures de sa vie, de l'accompagner vers ma sœur qui était décédée l'année précédente. Puis pour moi, c'est un grand privilège que d'être témoin de ça, de son passage dans l'autre monde. Je l'ai accompagné avec ma voix. Je lui disais qu'il s'en allait rejoindre ma sœur. Donc, je ne sais pas vraiment où j'ai trouvé le courage de faire ça, parce qu'en général, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les hôpitaux. Mais là, c'est force majeure. Mon père était aux soins palliatifs depuis une trentaine de jours. Donc, j'ai pris ce mandat-là, puis je l'ai accompagné. Et puis, lui m'a dit, avant de mourir, de continuer à faire ce que je faisais. Mon père était très fier de moi. Mon père, c'est un homme qui était très créatif, qui était très en santé avant d'être malade, un grand sportif, quelqu'un qui aimait faire de la bicyclette, qui mangeait méditerranéen depuis presque 40 ans. Donc, mes bonnes habitudes me viennent de quelque part, donc de lui. Puis, il m'a tout simplement dit de continuer à faire ce que je faisais.
Mais vous êtes une mère courage depuis des lustres. Hein? Et qu'est-ce que vous. C'est quoi le message que vous pouvez transmettre justement à ces autres mères qui sont. Qui ont des enfants autistes ou qui vivent comme vous? Là, quel message d'espoir vous pouvez nous transmettre, leur transmettre?
Ben, c'est de premièrement en parler, hein, dire nommer ce qui arrive. Quand on nomme quelque chose, on le comprend un peu mieux. En tout cas, on envoie le message à notre cerveau que la chose existe. Quand on le nomme pas ou quand on veut pas le vivre, c'est évident que c'est plus compliqué. Et puis, je fais juste leur dire d'écouter leurs enfants, d'être à l'écoute, de les regarder aller. En conférence, je dis toujours aux parents que je rencontre que ce sont eux les meilleurs spécialistes de leurs enfants. Donc, c'est de les observer. Puis, c'est pas de se mettre des attentes irréalistes non plus. Hein? Quand on a des enfants différents, ça le dit, la vie va être différente. Et puis, on vivra jamais la vie de nos amis, les personnes de notre famille qui ont des enfants neurotypiques ou des enfants qui n'ont pas de conditions ou pas de maladies. Donc, c'est de l'accepter en premier lieu. Puis, c'est de vivre son deuil aussi à sa façon, le deuil de la normalité. Il y en a que c'est long, il y en a que c'est court. Moi, mon deuil de la normalité, bien franchement, aura duré 2 heures à peu près.
Ah oui?
Oui, ça n'a pas été très long. J'ai lu sur l'autisme, je savais que mes enfants avaient quelque chose parce qu'ils étaient très singuliers, étaient plus particuliers que les autres. Et puis, quand on a eu les diagnostics, ben c'est sûr que c'est un moment où on se pose des questions, c'est l'inconnu, etc. Mais après ça, j'ai quand même... moi, je fais confiance à mes enfants. Je leur fais confiance. On est une équipe, nous autres. Ils viennent de moi, je les ai faits, mais ils ont des personnalités uniques. Ils sont des personnes à part entière aussi. Donc, je dis aux parents, regardez vos enfants, observez, écoutez-les. Et puis, faites confiance à votre intuition, votre instinct. Parce que ça, c'est fort, puis souvent, on l'écoute pas.
Puis cette différence-là, évidemment, éveille les consciences des autres. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce que vous dites, c'est que souvent, dans ces situations-là, on vit l'isolement, l'appauvrissement, l'épuisement.
Mm-hmm.
Puis des fois, on peut dire « au secours, au secours, au secours ». On dirait que les gens... je sais pas ce qui se passe dans l'inconscient collectif, mais c'est quand même pas rien. Il y a déjà la situation qu'on doit accepter, mais qui plus est qu'on va chercher de l'aide, on dirait que les portes se ferment.
Ben oui, c'est sûr. L'appauvrissement, l'isolement, l'épuisement, c'est vraiment des choses qui guettent les familles comme la mienne, les parents comme moi. Quand je vous parle de bonne humeur puis de joie, là, c'est pas constant, hein, chez moi non plus. Quand il y a je vis aussi de l'impuissance, surtout face au système. Hein, c'est pas tant mes enfants qui sont difficiles, c'est la structure sociale qui est pas faite pour faciliter la vie de mes enfants et par conséquent la mienne. Donc moi, je comprends très bien les parents qui se heurtent à des manques de ressources, à des manques de services. Et puis, c'est bien évident que ça, c'est épuisant à la longue. je pense que les groupes de parents, la fratrie qui existe entre les parents d'enfants différents est très importante, notamment des groupes sur Facebook, des plaignades, des parents qui se rencontrent. C'est important d'en parler quand on est parent d'enfants différents parce qu'on vit des choses tellement absurdes aux yeux des gens qui ne vivent pas ça, qu'il y a juste des parents comme nous qui comprenons ce qu'on vit. Donc, moi, j'ai eu des réponses à des questions, non pas par des gens qui travaillent dans le système de la santé et des services sociaux, mais souvent par d'autres parents comme moi qui vivent les mêmes situations. Donc, pas avoir peur de créer des liens, de parler de sa réalité, à vrai dire.
Et vous le faites très bien. Vous le faites très bien parce que vous êtes marraine de la Fondation Louis Véro.
Exact.
Et cette fondation vient en Inde pour les autistes de 21 ans ou plus. Au mois de cet automne, les premières briques vont être construites pour recevoir les enfants.
Exact.
C'est vraiment le fun.
Ben, c'est merveilleux. C'est un cadeau inestimable, à vrai dire. C'est dans mon livre « Deux garçons à la mer ». Paru il y a 4 ans, où j'ai écrit une phrase qui disait « Je rêve d'une maison remplie d'amour qui va m'aider à construire cette maison-là. Je sais que quelqu'un généreux va lire ces lignes et d'une petite ligne dans un livre est arrivé ce grand projet. » C'est Véronique Cloutier qui a lu mon livre donc et qui m'a appelé pour me dire « On a choisi d'appuyer ta cause et on va construire des milieux de vie pour des personnes autistes de 21 ans et plus. Évidemment, nous, la clientèle visée pour ces milieux de vie-là, ça va être des autistes semi-autonomes, donc des autistes qui auront besoin d'une supervision toute leur vie durant. Et puis, comme vous l'avez dit, en septembre, on va commencer à construire cette première maison-là à Varennes. Je tiens à préciser que c'est vraiment une maison qu'on construit de toutes pièces. Donc, on a un terrain et c'est nous qui allons la construire. Donc, adaptée aux besoins des personnes autistes, vraiment construite pour eux. Et puis moi, je participe avec les architectes au plan. C'est moi qui donne un peu... c'est moi qui parle des séquences, notamment avec mes enfants au quotidien. Et puis, on est en train vraiment de faire des plans pour que la maison soit vraiment adaptée à leurs besoins, ne serait-ce que sensoriels, au niveau de l'isolation, au niveau de la sécurité, bien évidemment. Donc, c'est la première fois au Québec qu'un tel projet voit le jour. Et je suis très fière de ça parce que c'est pour des personnes autistes adultes. Et mon fils Clovis va habiter dans une de ces maisons-là quand il va atteindre l'âge de 21 ans.
C'est vraiment une excellente nouvelle. Guylaine Guest, ce qui est bien avec vous, c'est votre sens de l'humour décapant. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Dame mature, réflexion comico-dramatique d'une périménopausée velue et moite. Ça vient de sortir, c'est tout chaud, disponible aux éditions Libre Expression. Donc, vous êtes ravissante sur cette page couverture, mais ce n'est pas tous les libraires qui ont accepté votre sens de l'humour, non?
Ben, à vrai dire, oui. Ben, il faut dire que sur la page couverture, moi, je tenais vraiment à ce que le sous-titre apparaisse, soit réflexion comico-dramatique d'une périménopausée velue et moite. Et je voulais que sur la photo, ce soit le reflet du sous-titre. Donc, j'ai exigé un rond de swing en dessous du bras et une petite moustache au-dessus de la lèvre. Donc, et puis je tenais à ça, et ça faisait partie du concept d'affirmer haut et fort qu'on arrive à ce moment-là de la vie. Et puis, il y a des libraires, des grandes surfaces qui ont jugé que la page couverture était un brin trop audacieuse, pour ne pas dire vulgaire.
Mais c'est dommage pour deux raisons.
Oui.
Première des choses, c'est que c'était sans réimpression. Ça, ouais. Votre livre marche tellement qu'il est en réimpression.
Exact, tant pis pour eux.
Et deuxième des choses, je lisais dans vos témoignages qu'il y a des femmes qui ont profondément été touchées par votre récit. Mais ça, c'est extraordinaire.
Ah ben oui, depuis la sortie du livre en mars, fin mars, je reçois vraiment des milliers de messages de femmes qui sont très heureuses que cet ouvrage-là ait vu le jour, parce que, mine de rien, on pense que non, mais en 2018, la ménopause, les hormones, les affaires de femmes, entre guillemets, c'est encore tabou, hein? Puis les femmes, entre elles, s'en parlent pas trop. Puis je pense, le point qui revient le plus souvent, c'est les filles qui m'écrivent pour me dire « Je pensais pas... dans la jeune quarantaine, vivre ça. Hein? Moi, personnellement, je n'étais pas préparée à vivre la préménopause dès la jeune quarantaine. Je pensais que c'était plus vers la soixantaine. Donc, je n'étais pas informée, je n'étais pas au courant. Et puis, je reçois énormément de messages de filles qui me disent « Oh mon doux, c'est donc ça. C'est donc ça qui m'arrive. » Puis, ça fait en sorte que je pense que c'est pour ça que ça fait tant plaisir. Ça dédramatise aussi, évidemment. Puis, je pense que les filles vivent un peu à travers moi l'humour et puis la façon d'aborder le sujet. Je dis pas que c'est léger, hein, parce qu'il y a quand même réflexion. Quand on arrive à ce moment-là charnière de la vie d'une femme, c'est pas rien quand même. C'est aussi avouer qu'on est plus jeune, hein, qu'on est rendu là.
Donc... C'est vrai que l'horloge interne n'est pas la même pour toutes les femmes.
Non, c'est du
cas
par cas.
C'est vrai qu'en moyenne, c'est vers les 50 ans et parfois, c'est 40 ans. C'est vrai.
Absolument.
C'est assez variable. Ce qui fait que ça peut être assez frustrant que, quand ça arrive dans la quarantaine.
C'est vrai. Ben, c'est que je pense qu'on ne s'y attend pas, puis on pense que c'est vraiment plus 55, entre 55 et 60 ans. Donc, quand on commence déjà à avoir des bouffées de chaleur ou de l'insomnie ou de l'anxiété ou une prise de poids ou que le plancher pelvien fonctionne moins bien qu'à l'habitude, ben on ne pense pas nécessairement dans la jeune quarantaine ou mi-quarantaine que c'est nécessairement ça. Donc, je pense que c'est un genre de reality check, mon livre. J'arrive d'un salon du livre et puis il y a deux réactions. Les femmes passent devant mon kiosque. Soit elles sont enjouées, me prennent dans leurs bras, me disent merci d'avoir écrit ce livre-là. Soit elles me regardent vraiment avec des gros yeux en me disant je suis pas rendue là. Mais là, moi, je la regarde et je dis je pense que oui. Donc,
vu votre comportement
et votre rétention d'eau, mais ça, c'est autre chose. Et donc, je pense que ça fait du bien. Mais tu sais, je suis pas la première à parler de ça. Il y a quand même eu d'autres femmes qui en ont parlé avant moi. Je ne suis pas la jovialiste de l'hormone non plus, là. Donc, mais oui, les messages me font aussi du bien. Puis je suis très contente de l'avoir écrit, ne serait-ce que pour constater que je ne suis pas seule dans cette situation-là, qu'on est vraiment très nombreuses.
La jovialiste de l'hormone, j'adore.
Mon prochain livre.
On va reparler plus tard de la ménopause, mais après ces moments musicaux et un stéthoscope pour entendre connaître un peu les droits des proches aidants, on rencontre notre nutritionniste pour parler de ce flexitarisme que vous avez adopté.
Absolument.
Sur la rue des toits qui frisent, il y a un gros pâté de maison, des maisons boîtes à surprise, du plancher jusqu'au plafond, des maisons. Des maisons, des maisons, des maisons boîtes
Nous sommes avec Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour Claudine.
Bonjour François, ça va bien?
Très bien, et vous?
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on discute un peu de périménopause et ménopause avec Guylaine et surtout flexitarisme. Donc, ce sont deux thèmes importants dans la vie de notre invité.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le flexitarisme, Claudine?
Mais en fait, le flexitarisme, c'est vraiment, on va appeler ça aussi le semi-végétarisme. En fait, c'est une alimentation qui n'est pas exclusivement à base de plantes. C'est-à-dire que les personnes qui décident d'être flexitariens vont décider de continuer de consommer des aliments à base d'animaux. Par contre, ils vont vraiment modifier leur alimentation pour qu'elle soit principalement à base de plantes. Donc, c'est une forme de végétarisme, mais qui n'est pas totalitaire, si on veut, donc qui amène beaucoup plus de flexibilité, justement, comme le terme le dit. Et pour différentes raisons, Guylaine, je ne sais pas pour vous pourquoi vous avez décidé d'être flexitarisme plutôt que totalement végétarienne.
J'étais vegan, végétalienne pendant 2 ans, à vrai dire. Et puis un matin, je me suis réveillée avec une franche envie de croquer un saumon vivant. Et je me suis dit, mon corps m'envoie peut-être un message. Et puis j'ai recommencé à manger un peu de poisson et fruits de mer aussi. Donc voilà, pas que j'avais une carence ou quoi que ce soit, mais mon corps me disait d'en manger. Donc, mais je mange quand même, là, 70% de mon alimentation vient du monde végétal.
Ben c'est ça. Donc, les gens vont décider de pas être absolument végétarien ou végétarienne, ben soit par envie, parce que justement, ils ont peut-être envie de croquer un saumon vivant, mais ça va aussi être pour le plaisir. Il y a beaucoup d'épicuriens qui aiment le goût aussi de manger des viandes, des poissons, des fruits de mer. Puis aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est le côté pratico-pratique de la chose. Donc, souvent, on va être invité dans des événements sociaux, à des fêtes, des soupers d'amis, de famille. On va juste s'adonner à manger ce qui va être sur le menu, tout simplement.
Mais Claudine, excusez-moi, j'ai l'impression que vous me parlez de moi. J'ai l'impression d'avoir fait du flexitarisme depuis toujours. Je suis omnivore, finalement. Finalement, non? Ça s'appelle un peu ça?
Non, parce qu'en fait, c'est vraiment comme disait Guylaine, il faut que l'alimentation elle soit là, au moins aux trois quarts pratiquement, donc 72 à 75% de la part en énergie provienne.
C'est ce qu'on préconise en médecine. On dit de baisser la part de de la viande à presque rien.
Mais moi, je mange très peu de pain, par exemple. Très peu de... à vrai dire, le fait d'être végétalienne pendant 2 ans, ce que ça m'a amené, c'est de connaître des produits que je ne connaissais pas, comme par exemple la levure alimentaire, les beurres d'amandes, etc. Donc ça, c'est des choses que je ne connaissais pas avant, qui sont arrivées dans ma vie par le végétalisme et qui sont encore là. Donc... C'est vraiment la découverte, à vrai dire, je trouve, le flexitarisme pour moi.
Exactement. Mais ça, l'alimentation, c'est très culturel. Hein? Donc, c'est sûr que si on est, surtout au Québec, ici, on est des gros mangeurs de viande. Donc, c'est juste de découvrir, comme vous dites là, des nouveaux produits, de vraiment transitionner, de faire la transition tranquillement vers des aliments qui sont plus à base végétale. Mais c'est sûr que là, on le nomme, mais il y a énormément de gens en ce moment qui font cette transition-là pour la raison là, tout simple, en fait, c'est ça. Ils veulent pas devenir trop rigides et restrictifs avec leur alimentation. Ça permet de faire une transition qui va peut-être être totale ou pas vers le végétarisme, mais au moins, il y a une super belle contribution à leur santé avant tout, mais aussi à l'environnement, puis peu importe la raison pour laquelle on va le faire. Certaines personnes, on va souvent les entendre, on va dire ovo végétarien, lacto végétarien, pesco, polo végétarien. Donc ça, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on va se permettre d'inclure dans notre alimentation autre que les aliments à base de plantes, en fait. Là.
Quelles sont les autres formes de végétarisme qui sont identifiées?
Bien, c'est ça, c'est vraiment en fait, le végétarisme, ça va être végétarisme strict, là, ça va être simplement végétarisme. Mmh. Donc là, à ce moment-là, ceci implique qu'on va manger seulement des aliments à base végétale. Mais dans le végétarisme, dans le flexitarisme, pardon, là, à ce moment-là, on va avoir le ovo, en fait, c'est les gens qui permettent de manger les œufs, le lacto, ça va être pour ceux qui vont se permettre les produits laitiers de la vache ou de tout autre animal mammifère. Les pesco, ce sont pour les poissons. et les polos, ça va être vraiment le poulet, donc tout ce qui est volaille. Donc, on a des lacto-ovo-végétariens. On entend souvent parler de ça, mais aussi souvent, il va y avoir là-dedans le pesco qui est le poisson. Là. Souvent, les gens vont éliminer tout sauf le poisson. Donc, il y a vraiment plusieurs catégories dans lesquelles on pourrait se mettre, là, mais en gros, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment les grandes catégories.
Et quels sont les avantages de ces régimes-là?
En fait, c'est comme je le disais, ça dépend de pourquoi on va le faire. Si on le fait parce qu'on va améliorer sa santé, mais comme Guylaine le disait, elle a découvert plein de nouveaux produits qu'elle peut utiliser, qui sont nutritifs et qui font en sorte qu'on peut justement contrer les effets d'une alimentation avec des produits animaux sur notre système. Puis, comme vous devez savoir, Dr. Barwell, il y a souvent les maladies cardiovasculaires qui sont amenées malheureusement par des gras saturés et des gras de source animale principalement. Donc ça peut aider justement à contrer ces effets-là avec plus d'antioxydants, plus de fibres aussi parce que nécessairement si on mange plus de légumes, de fruits, on va aller chercher plus de fibres aussi. Donc, oh mon Dieu, les avantages sont vraiment grands.
Quels sont les avantages? Quelles sont les complications? Ou du moins, comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes les complications hormonales dans la période de périménopause avec votre travail de nutritionniste?
Excellente question.
Oui, je sais, puis j'en ai parlé avec le producteur. En fait, c'est très difficile parce qu'il y a des femmes qui vont réussir justement à améliorer leur santé en réorientant leur focus sur leur alimentation et leur mode de vie, donc l'activité physique. Ça va comme être un appel de la nature qui va dire « Ok, il serait temps que tu te remettes plus en forme et que tu améliores tes habitudes de vie. » Et ça va très bien fonctionner. D'autres femmes, malheureusement, c'est purement hormonal. On aurait beau mieux s'alimenter, bouger plus. Les hormones sont tellement déséquilibrées que c'est très difficile pour le corps de se stabiliser et de trouver des habitudes qui vont être capables de venir soutenir. Ça va prendre quelques années. Donc, j'ai pas de réponse définitive pour nos auditeurs. Et pour Guylaine, Guylaine, vous avez trouvé votre
famille. Je fais des recherches. Hein. Mais je pense que c'est vraiment du essai pas erreur. Là, mais tu sais, on essaie des choses. Moi, j'ai constaté que quand je bois moins d'eau, je fais plus de rétention d'eau. Donc, boire de l'eau, pour moi, ça a été une façon de contrer ça. Évidemment, l'exercice. Et puis, manger moins de plats déjà préparés, ça me fait du bien, moi. Cuisiner puis manger frais, moi, j'ai l'impression d'être propre par en dedans.
Ouais. Merci. C'est une façon de le dire. Mais je pense que c'est ça, c'est juste de se reconnecter avec, d'essayer de rester loin des produits transformés, de trouver des choses qui nous font sentir bien à la base. Donc, je pense qu'une alimentation qui est saine et mieux équilibrée, même si on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on voudrait, déjà, c'est un bon départ et une bonne habitude à maintenir. Mais c'est ça, malheureusement, des fois, il faut se retourner peut-être vers l'hormonothérapie ou vers d'autres médecines non conventionnelles, non traditionnelles pour nous aider. Mais c'est vrai, c'est vraiment essai de différentes techniques d'options là, à travers lesquelles on peut trouver nos chances pour nous. Ouais.
Merci beaucoup Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Merci.
À bientôt.
Merci, bonne journée. Ouais.
Stéthoscope.
Stéthoscope, c'est un moment où on ausculte pas seulement le corps de la patiente, mais où on écoute un article ou des conseils de la santé sociale ou psychologique, ou même, aujourd'hui, juridique. Il s'agit d'un article et recensement de ressources juridiques et communautaires pour les parents comme Guylaine. Sur educaloi.qc.ca, l'article s'intitule « Proches aidants, comment la loi vous outille ?» On doit parfois venir en aide à un proche qui a besoin de soutien en raison de son âge, d'une maladie ou d'une situation de handicap. On devient alors un proche aidant. De nombreuses questions se posent à ce moment-là. A-t-on le droit de s'absenter du travail pour s'occuper de cette personne? Peut-on l'appuyer au moment de prendre des décisions importantes concernant certains soins? Comment agir à sa place lorsqu'elle n'est pas capable de le faire elle-même? La loi donne aux proches aidants des outils pour conseiller, décider et agir. Dans ce dossier, Éducaloi rassemble l'essentiel de l'information juridique utile lorsqu'on est proche aidant. Concilier le travail et les responsabilités de proche aidant. Puis-je m'absenter pour prendre soin d'un de mes proches? Si oui, combien de temps? Quels sont les recours si mon employeur ne le permet pas? S'il menace de me congédier? On peut en savoir plus sur les motifs interdits de congédiement et de sanctions. On vous invite à en prendre conscience en suivant le lien de l'article. Mais il existe aussi des congés pour raisons familiales et personnelles, par exemple. Combien de jours par année puis-je m'absenter du travail pour prendre soin de mes proches? Vous pouvez vous absenter du travail sans salaire, 10 jours par an pour remplir vos obligations concernant la garde, la santé ou l'éducation de votre enfant ou de l'enfant de votre conjoint, ou encore en raison de l'état de santé de votre conjoint, votre père, votre mère, votre frère ou sœur ou un grand-parent. Par exemple, si votre enfant est malade et doit voir un médecin, vous pouvez vous absenter du travail. Si vous n'avez besoin que d'une demi-journée et que votre employeur est d'accord, vous pouvez ne prendre qu'une demi-journée de congé. De plus, vous avez le droit de vous absenter du travail pendant 12 semaines par année sans salaire, si votre présence est requise auprès de votre enfant, conjoint, enfant de votre conjoint, père, mère, frère, sœur ou grand-parent, en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident. Si votre enfant mineur, moins de 18 ans, qui est atteint d'une maladie grave, potentiellement mortelle, vous pouvez prolonger ce congé jusqu'à 104 semaines, c'est-à-dire 2 ans non payés. Vous avez aussi droit à ce congé de 104 semaines pour vous occuper de votre enfant mineur qui a été blessé gravement à la suite d'un crime. Votre employeur ne peut pas, lorsque vous vous absentez pour ces raisons, exercer des sanctions contre vous. Pour plus d'informations, consultez l'article « Les motifs interdits de congédiement et de sanctions », toujours sur Éducaloi. Soins de santé, s'informer pour prendre des décisions éclairées. En règle générale, chacun a le droit d'accepter ou de refuser de recevoir des soins de santé. Pour que le patient fasse son choix, le médecin doit lui donner certaines informations. Mais qui décide quand on n'est pas en mesure de donner son accord? Et qu'est-ce que ce sont les soins forcés? Je vous rappelle que cet article est sorti dans Éducaloi, ou sous la rubrique « Proches aidants, comment la loi vous outille ?» C'est un rendez-vous sur educaloi.qc.ca.
Merci beaucoup François, c'est tellement intéressant. Nous sommes avec Éric Beauchemin. C'est le temps des camps d'été et on a avec nous un grand chef, le directeur général de l'Association des camps d'été du Québec, rien de moins.
Bonjour.
Bonjour Éric Beauchemin, ça va bien?
Oui, très bien.
Alors là, c'est bien les enfants, les parents, ça va être bien pour les deux camps.
Tout à fait, c'est le cas de le dire.
L'été qui s'annonce. Vous parlez de camps certifiés au Québec, ça veut dire quoi? Quoi un camp certifié?
Les camps certifiés, c'est des camps qui ont été inspectés par nos consultants à la certification. Nous, on a mis en place, il y a plus d'une quarantaine d'années, un programme de normes. Donc, une soixantaine de normes qui vont régir la formation du personnel, les ratios d'encadrement, l'âge du personnel, toutes les mesures de sécurité qu'on doit mettre en place, tout ce qui concerne les menus qui vont être servis aux enfants en camp de vacances. Donc, nous, on inspecte ces camps-là et dans la mesure où ils se conforment aux 60 normes, bien, ils sont certifiés et ils ont un logo qu'ils peuvent afficher qui en témoigne.
Lorsqu'on parle des camps de vacances, c'est un bienfait pour les enfants, mais est-ce que c'est un bienfait pour les parents aussi? Ça marche comment?
On peut le prendre comme ça. Le mot vacances peut s'appliquer aux deux dans certains cas. C'est pas vacances, ce sera un répit pour certains. Mais oui, c'est le camp de vacances, c'est vraiment le programme où l'enfant va coucher au camp. Donc, pour une période là, de 5 à 12 nuitées. Puis même chez les plus vieux, on va dans des 30 quelques nuitées. Alors que on a le camp de jour aussi qui est très populaire, qui est très présent. Là, ça, c'est au quotidien, un peu sur le régime scolaire, finalement, l'entrée au camp de jour en matinée pour le programme qui va durer toute la journée pour une période de 5-10 journées en fonction de jusqu'où on se rend dans un programme là, avec une spécialisation.
Il y a Guylaine Gay qui est avec nous.
Est-ce que je peux me permettre de dire que j'ai été plusieurs années, moi, monitrice de camp?
Ah
oui? Oui, notamment au camp Bruchézy, où M. Beauchemin a lui-même travaillé. Et puis, ça a été les plus beaux étés de ma vie. Et ça a été aussi très formateur. Je ne suis pas le parent que je suis aujourd'hui. J'aurais pas été ce parent-là si j'avais pas été monitrice et si j'avais pas vu autant d'enfants. Et petite anecdote, la première fois que j'ai vu des autistes, et là, je parle de quand j'avais moi-même 17 ans, donc loin d'être parent moi-même d'enfant autiste. C'est au camp Bruchézy. Mm-hmm. Il y avait le camp Emergo qui était en résidence au Saint-Laurent en
qui
haut.
Qui existe toujours. Ouais.
C'est un chalet qui est en haut de la montagne. Et la première fois que j'ai vu des personnes autistes, j'avais 17 ans, j'étais en train d'éplucher des oranges sur la plage pour mon groupe. Et j'ai vu ce groupe-là descendre, faire du flapping vraiment sonore. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça doit être quelque chose d'être parent d'enfants comme ça. Et presque 30 ans plus tard, je devenais moi-même, 20 ans plus tard, moi-même mère de deux enfants autistes. Donc, mes premières personnes autistes que j'ai vues, c'est au camp Bruchézy.
Mais vous êtes la preuve que c'est possible d'envoyer nos enfants dans un camp de vacances.
Absolument. C'était ma prochaine question. Des gens qui ont des parents qui ont des besoins particuliers avec des enfants spécialisés. Comment est-ce que
des enfants qui ont des besoins particuliers.
Qu'est-ce qu'il
fallait
que je dise?
Nous, on parle de clientèle à besoins particuliers.
OK. C'est comme ça, je voulais l'annoncer de manière diplomate et je me suis fourvoyée. Est-ce que vous les intégrez dans vos camps de vacances?
On a toutes sortes de types d'intégration. On a des programmes totalement spécialisés, dédiés à des besoins particuliers qui peuvent être plus lourds en termes de déficience intellectuelle. Par contre, on a des besoins particuliers qui sont plus légers ou une formation préalable du personnel. Je vous parle d'un trouble d'anxiété généralisé, par exemple, chez un jeune. Bien, si le personnel est bien à l'affût de ça, on est capable souvent d'intégrer. Il y a aussi des programmes d'accompagnement loisirs qui existent. Donc, on peut demander pour avoir un accompagnateur avec notre enfant. Donc, on se joint aux activités régulières d'un programme de camp de jour ou camp de vacances.
Donc, c'est au cas par cas, en fait.
Oui, évidemment, nous, vraiment, l'approche qu'on a dans l'intégration réussie des jeunes en camp, c'est vraiment la portion évaluation qui est l'enjeu majeur, que le parent nous fournisse la juste information pour qu'on voit, premièrement, est-ce qu'on... Oui, on est apte, on est une structure qui peut apporter les adaptations pour bien l'accueillir. Puis là, je parle d'adaptation, ça peut être physique, hein? Ça peut être ne serait-ce que l'accessibilité au site qui n'est pas facile pour un jeune qui est en fauteuil roulant. Mais dans la mesure où on est capable d'apporter des accommodements puis de rendre les soins attendus à cet enfant-là, oui, on va l'intégrer à nos programmes réguliers le plus possible.
Est-ce que vos enfants vont dans des camps de vacances?
À vrai dire, ils ne sont jamais vraiment allés pour toutes sortes de raisons. Ça n'a pas donné.
On pourra s'en parler.
Mais
après.
J'aimerais ça qu'on s'en parle parce que mon fils de 17 ans, là, j'aimerais bien ça qu'il fasse un programme aspirant moniteur parce que lui, il est très bon avec les enfants. Il a une grande empathie et il connaît très bien la condition parce qu'il est autiste lui-même. Et puis, c'est quelque chose que j'aimerais ça qu'il vive. Et mon fils Clovis, le plus jeune, lui, est déjà allé en camp, mais quelques journées seulement. Mais ce qui est merveilleux dans ces programmes, là, c'est que c'est pas l'école, hein. C'est dans la nature, premièrement, ça, il faut le dire. Ça éveille des choses, ça fait découvrir des affaires. Moi, avant de travailler dans des camps, je n'étais pas capable de faire la différence entre un boulot puis une épinette, là. Je venais de la ville, hein. Donc, ça ouvre l'horizon. C'est inclusif dans le sens où on voit toutes sortes d'enfants. En tout cas, moi, je trouve que le camp de vacances, là, moi, j'encourage les parents à envoyer les enfants en camp de vacances. C'est vraiment une expérience qui marque pour la vie. Il y a des amitiés qui se tissent dans les camps aussi. Puis on apprend des choses, on voit des choses, on sent les sens, là, tout sens confondu.
Et d'ailleurs, ça a été étudié. On a mesuré les retombées d'un séjour en camp de vacances chez les jeunes au niveau du développement de l'autonomie, de la confiance en soi. C'est le 2/3 des jeunes qui avaient un impact positif. La relation à l'environnement, on parle beaucoup du déficit nature. Bien, ce contact-là qu'on établit avec la nature, parfois, il va nous suivre toute notre vie. Fait qu'au niveau, on parle de santé mentale, le contact avec la nature est réputée comme étant vraiment bénéfique. On a là des sites fantastiques partout au Québec pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes, on peut le faire en famille, on peut le faire, il y a des adultes, il y a des camps pour adultes aussi, là, avec des programmes adaptés à des besoins particuliers.
Ben, justement, vous nous donnez le goût à la bouche. Est-ce qu'il est un peu tard pour s'inscrire? Comment ça fonctionne? Comment on pourrait s'inscrire à un camp de vacances? Qu'est-ce que vous nous proposez?
Ben, en fait, il reste des places en camp. Nous, on a un moteur de recherche disponible sur le web, le camp avec un s.qc.ca, dans lequel il y a un moteur de recherche où on peut chercher notre camp. Ça s'appelle Trouver mon camp. Et là, on va voir par région l'éloignement, le type de besoin particulier qu'on peut avoir. On a une section appropriée pour ça aussi. Vous pouvez évidemment nous contacter aussi par téléphone pour qu'on vous accompagne dans une démarche de recherche avec une demande plus particulière au niveau d'un accompagnement, parce qu'ils sont répertoriés dans notre magazine sur notre site web, mais on va essayer vraiment de vous orienter vers des organisations qui sont à même de bien accueillir vos enfants puis de les encadrer.
Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Puis vous disiez ma joie de vivre, je ne sais pas d'où elle vient, mais je suis sûre que c'est venu quand vous étiez jeune dans ces camps d'été.
Un grand coup de chansons et de maquillage.
Alors, on remercie Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps d'été du Québec. Merci infiniment.
Mon plaisir.
Brush you up in the hospital, you remember that?
Yes, I do.
Well, it
La périménopause, comme le disait le docteur Laberge, c'est un tsunami. Mais qu'arrive-t-il quand les marées, les flux et les reflux sont bousculés, même dans son intimité ? Avec nous, Sonia Boucher, intervenante en santé sexuelle, pour en discuter. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Sur le plan de la sexualité avec soi, avec l'autre, quel sera l'impact de la ménopause dont nous discutons actuellement avec Guylaine Gay ?
Bonjour Madame Gay.
Bonjour, d'abord. Enchantée, oui, merci.
Enchantée aussi, oui. Je dois vous dire là, que vous êtes dans ma liste d'auteurs prévue 2018.
Ah, bonne nouvelle. Je vous souhaite bonne lecture. Merci.
Oui, certainement. Au plaisir. Donc, périménopause, qu'est-ce qui arrive? Quel est l'impact sur les couples? Évidemment, c'est très intimement lié à la sexualité du couple déjà avant la ménopause. Donc, oui. Nécessairement, une sexualité qui va mal ne va pas s'améliorer à cause de la ménopause. Il faut aussi prendre cet aspect-là en compte, d'une part. D'autre part, chez les femmes, et sûrement vous en avez discuté, ou en tout cas je l'ai vu à travers vos différents ouvrages, nécessairement les femmes, on est menées par une série un peu en montagne russe, dictée par nos hormones. On a déjà cette aptitude-là à s'adapter selon nos hormones, qu'elles soient conscientes ou non. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de prendre conscience de cette différence-là, qui est guidée par nos hormones, qu'elles soient absentes, présentes, en flèche ou en diminution. Donc, ça, c'est un autre aspect important, les rencontres. Ensuite,
est-ce que vous croyez que la libido peut justement varier à ce point-là? Elle peut monter en flèche aussi?
Absolument. Moi, j'ai vu ça chez certaines femmes plus âgées, et même après le début de... pas juste d'après ménopause, mais de la ménopause. Donc, oui, cette montée-là, et elle s'explique de plusieurs façons, et pas juste d'une façon hormonale ou physique, biologique. Mm. C'est aussi une question de disponibilité à l'autre. Quand on n'est plus disponible pour avoir une vie sexuelle, quand les enfants, on peut dire comme ça, sont bien placés, quand nos préoccupations sont différentes, qu'on a moins de travail aussi à l'extérieur à faire. Donc, il y a toute cette disponibilité disponibilité-là qui peut favoriser finalement le désir sexuel. Parce qu'on parle de libido, mais surtout de désir sexuel qui va être différent.
Il y a quand même certains mots physiques, comme par exemple, qui apparaissent là, pendant la préménopause, comme la sécheresse vaginale là, qui peut occasionner là, un inconfort physique. Ça aussi, ça peut faire partie d'une perte de libido.
Justement, mais en prévention, on peut très bien utiliser des œstrogènes locaux qui ne sont pas absorbés et qui améliorent très, très bien la muqueuse.
Oui, il faut le nommer. Par contre, hein, des fois, quand ça apparaît, on pense peut-être pas que c'est ça. Ça vient qu'on a peut-être moins envie de rapprochement à cause de ça. Mais
bien sûr,
quand on le nomme, évidemment,
tout à fait.
Oui, et comme vous venez de le dire, le plus important, c'est de nommer, de l'adresser, de rendre compte de la situation, parce qu'effectivement, la sexualité des femmes est tellement tabou à tous les âges et à tous les aspects de la vie. On en parle peu. On parle des chaleurs, on parle des inconvénients, on parle moins de la sexualité des femmes au moment de la ménopause. La sécheresse vaginale en est un exemple. Vous avez parlé de pertes pour différentes personnes. On parle de différentes pertes au niveau du tonus aussi musculaire, effectivement, la sécheresse vaginale. Mais il faut aussi penser à certains gains possible lors de la ménopause, et je ne parle pas du gain de poids ici. Là, pour,
mais justement,
mais c'est quoi? Il y a des choses positives alors?
Oui, absolument. Donc, comme je parlais, évidemment, au point de vue social, on n'est pas rendu à la même étape dans notre vie. Au point de vue physique, beaucoup de femmes se connaissent beaucoup mieux rendues à la ménopause, donc vont plus rapidement se rendre compte qu'il y a une différence.
Est-ce qu'il y a une qualité, justement, du plaisir féminin qui est différente? Est-ce qu'elle est meilleure, cette qualité? Parce que il me semble qu'il y a une question de qualité et de quantité qui apparaît.
Oui, mais le premier point dont je vous ai soulevé est très important ici, c'est-à-dire votre sexualité avant la ménopause. On ne peut pas dire qu'une femme va avoir une meilleure sexualité après la ménopause si toute sa vie, ça a été quelque chose de très difficile pour elle.
Oui. C'est ça.
Donc, c'est pas vrai qu'elle va être tout à fait épanouie si elle a vécu, par exemple, plusieurs traumatismes au cours d'une vie maritale et qui sont pas réglés, avec qui il y a déjà un malaise face à la sexualité. Donc, c'est pas la ménopause qui va changer cet aspect-là d'un point de vue psychologique, en tout cas.
Justement, quelle est l'attitude que doivent avoir ces personnes
au moment de la ménopause en face de, du plaisir, de la sexualité.
Mais vous parlez de ces personnes, qui vous voulez dire exactement?
Eh bien, l'attitude de la, de, des femmes en ménopause, en préménopause ou en périménopause, quelle doit être cette attitude mentale?
Mais déjà, une attitude de disponibilité, c'est-à-dire de prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les changements ne sont pas, et ça, il faut, c'est quelque chose sur lequel il faut insister, les changements ne sont pas là pour rester. Donc, ce sont des changements ponctuels. Il faut apprendre à vivre avec ce qui est là présentement cette semaine. Peut-être que ce ne sera pas là la semaine prochaine. La sécheresse vaginale, quand elle s'installe, elle ne s'installe pas pour de bon. Donc, elle peut être là seulement pour un temps. Donc, oui, il faut apprendre à être accompagné, à avoir des substituts, d'autres manières de faire, une sexualité nouvelle, mais surtout une sexualité qui s'adapte avec le temps. Et une sexualité de 50 ans n'est pas la même qu'à 60 ans, ménopause ou non.
Et Madame Boucher, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos conjoints, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour faciliter la tâche lorsqu'on est en ménopause, puis qu'au niveau sexuel, on voudrait exprimer cette phase de ménopause, comment on pourrait leur faire comprendre, qu'est-ce qu'on devrait dire?
Ben, en fait, il faut l'adresser telle qu'elle est, parce qu'elle n'est pas pareille pour chacune. Je ne peux pas vous donner une formule magique de dire, mesdames, dites à vos conjoints, là, ça va être difficile pour vous cette période-là. Mmh. À certains moments, vous éprouverez une certaine sécheresse vaginale ou un malaise. Ou même, ça peut aller jusqu'à un peu un rebut de la sexualité. Un rejet total, mais ça ne sera pas lié nécessairement au désir. Donc, il faut vraiment discuter avec votre conjoint comme vous le faisiez avant. Donc, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui et maintenant, et ce que vous ne voulez plus faire, même si ça vous intéressait il y a quelques semaines, par exemple.
Très bon, merci. La communication.
Ouais.
La communication en premier.
Ouais.
La communication, mais surtout l'authenticité. Mmh. C'est-à-dire, parce que souvent, je vois le malaise, je veux pas mettre ça sur la faute de la ménopause, un peu comme on le faisait avant, sur la faute des menstruations.
Oui. Ah,
le tabou lié à ça. Ça. Donc, parfois, ouais, même si ça fait longtemps qu'on est avec le même conjoint, on n'est pas à l'aise de dire cette semaine, je suis dans mes menstruations, il y a telle situation que j'aimerais éviter. Parfois, on a ce malaise-là. Donc, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire, je ne sais pas moi-même ce qui arrive, je ne peux pas te l'expliquer, mais je peux te dire que je ne suis pas à l'aise avec telle situation, par exemple.
Écoutez, merci beaucoup, Sonia Boucher. C'est très intéressant.
Absolument.
Ça met bien à plat les choses. Et vraiment, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin d'émission et au plaisir.
Au plaisir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Je veux, en tant que médecin, ouvrir un dossier qui me touche pour celle qui en tiennent une couche, je vous le dis pour votre bien. Quand tu transpires sous les bras, non, tu n'as pas pris froid, c'est juste la ménopause. Si tu es en manque d'amour, ce n'est pas une raison pour attraper des mycoses. Si tu craques toutes les heures, quand tu vois un surfeur, c'est l'ostéoporose. C'est le début d'une nouvelle vie. Tous les jours tu cours à la pharmacie. Et cette vie tu l'aimeras, car maintenant tu as vraiment le feu. Serge Lama, c'est juste la ménopause. Si tu es en manque d'amour et que tu vois des vautours, c'est que tu te décomposes. Pour les bouffées de chaleur, tu voudras toutes les heures un pompier qui t'arrose. C'est le début d'une nouvelle vie.
Donc, chaque semaine, on parle d'un livre avec Dr. Baruel. Cette semaine, il est question de la pré-ménopause, guide de survie pour rester zen. C'est rédigé par Mirella Di Blasio. Mirella Di Blasio, ben, c'est une femme qui a occupé plusieurs postes de cadre en marketing, en vente, dans des multinationales, dans des agences de publicité, celle qui a fondé Lulu et Castagnette en 2003. Et c'est son premier essai. Donc, dans ce livre, elle dit « Pour la plupart des femmes, la préménopause est synonyme de perturbation majeure auquel il est malheureusement impossible d'y échapper. Difficile de garder le cap sur la bonne humeur. » Alors, surtout quand les hormones gouvernent tout ça. Et l'auteur de cet ouvrage est bien placé pour savoir. Elle a expérimenté 30 des 35 symptômes reconnus de ce passage obligé, bouffée de chaleur, insomnie, prise de poids, perte de libido. Et elle a failli quitter son conjoint, elle a voulu se jeter au bas du pont, envoyer promener ses clients. En tout cas, elle a fait plein d'affaires. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'elle a un humour, mais un humour ex aequo avec Guy Lengue. Et Dr. Baruel va nous lire un extrait. C'est vraiment succulent et c'est disponible sur étiquette édito. C'est la maison d'édition, c'est édito.
Dans la liste des symptômes, j'ai choisi le symptôme numéro 2 qu'elle raconte très très bien, qui s'appelle les sueurs nocturnes. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis trempé, j'ai froid, j'ai fait pipi au lit ou quoi? J'étais loin de me douter que mon métabolisme allait autant s'activer durant la nuit. Je vous assure que dans la liste des symptômes plus que désagréables, celui-ci arrive en tête. Ça a commencé par la sensation d'avoir chaud. J'avais la peau moite. Mon amoureux, qui avait l'habitude de dormir collé contre moi, a eu droit à une semonce directe. « Dégage, j'ai chaud !» Je ne sais pas pour vous, mais moi, je deviens un monstre la nuit. Après quelques mois, des perles d'eau se sont formées entre mes seins et sur ma nuque. C'est à ce moment que j'ai commencé la danse de la couette. Sous le pied. Rentre, sors le pied, rentre le pied, sors le bras, rentre le bras, retire la couette, remets la couette. Quelle gymnastique! Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. En effet, les sueurs nocturnes se sont intensifiées au fil des mois, à tel point que j'ai décidé de les rebaptiser « inondations nocturnes ». Si, comme on l'affirme, le corps humain est composé d'environ 60% d'eau, je vous assure que j'en perdrai au moins 10% chaque nuit. Je me sentais comme une passoire. Les pores de ma peau pissaient de l'eau. Chaud, froid, change de pyjama. Chaud, froid, change tous les draps. Chaud, froid, change de corps. J'étais à la fois fasciné et furax. C'est encore une fois ma sorcière bien-aimée qui m'a sauvé avec une petite granule qui a diminué mes sudations. De vous à moi, sachez qu'à l'époque, j'habitais encore avec mon chéri. Depuis, nous habitons le même immeuble, mais chacun dans son appartement. Est-ce une conséquence de la préménopause? Est-ce que je lui ai assez dit qu'il méritait la médaille du courage et de la tolérance pour avoir subi tous mes états d'âme à cette époque? En tout cas, voilà, c'est écrit à jamais. Et elle donne des conseils ensuite, qui sont penser à consulter l'homéopathe, essayer un mélange pro-œstrogénique comprenant acté de grappe noire, trèfle rouge, etc. Ça, c'est dans la naturopathie. Et elle donne aussi un petit coup de pouce qui est garder des nuisettes ou des pyjamas de rechange à côté de votre lit, mettez des serviettes de bain sur vos draps au lieu de changer les draps, expliquez à votre chérie ou votre douce que pendant quelque temps vous allez être agité. Évitez d'engueuler votre partenaire s'il ou elle vous colle trop. Parlez-en au plus vite à votre naturopathe, homéopathe et médecin.
Ben, merci beaucoup François. Mais il y a Guylaine qui connaît très bien la question puisqu'elle vient d'écrire un livre d'âme nature. Ben, Guylaine, oui. Est-ce que ça te tente toi aussi de nous faire la lecture? Mature, mais c'est nature.
D'âme mature. Mais là, ça me fait penser à un truc, les serviettes de bain sur le lit. Je pense que je vais inventer des draps contours en tissu serviette. Et voilà, c'est fait. On invente ça. On va vendre ça dans les grandes surfaces qui n'ont pas voulu vendre mon livre. OK. Alors, chapitre 6 dans Dame Mature, ménopause droit devant. Elle est arrivée sur la pointe des pieds. Des pieds enflés, il va sans dire. À la mi-quarantaine et sans crier. coucou, c'est moi la grosse méchante ménopause. J'en avais déjà entendu parler, mais quand ça arrive aux autres, on entend moins bien. Clémence l'avait chanté il y a longtemps, mais quand on est jeune, on ne connaît pas la musique. Ma mère avait beaucoup souffert de ce passage marqué et marquant. Je l'avais vue prendre du poids et perdre ses repères. La magie de la génétique allait certainement m'embarquer dans la même galère. Des chaleurs, des varices, des palpitations cardiaques, de l'insomnie, une prise de poids, de l'irritabilité, de l'anxiété, une perte de cheveux, des poils indésirables et des douleurs articulaires, un beau programme en perspective. Certaines femmes dans mon entourage m'ont dit n'avoir eu aucune de ces manifestations hormonales, les chanceuses. Mais beaucoup, beaucoup m'ont aussi raconté le contraire. La ménopause est inévitable, dessinant la marque du temps sur nos corps, laissant des sillons plus visibles chez certaines que chez d'autres. Elle estampille aussi le dedans de nos têtes en changeant l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour être bien franche, depuis mon face-à-face avec la périménopause, j'utilise ici face-à-face dans le sens d'accident frontal et non de doux tête-à-tête, j'ai la fleur de l'âge, un brin flétri.
Ben, merci. Ah, c'est bravo, c'est magnifique.
Merci donc, c'est disponible, livre qui vient de sortir, Guylaine Gay, Dame mature, réflexion comico-dramatique d'une périménopausée, velue et moite, qui vient de sortir aux éditions Libre Expression. Est-ce que vous faites un peu les salons du livre avec ce livre?
Oui, je les fais tous, accompagné de mon fidèle petit ventilateur de poche, qui est très, très prisé des femmes qui viennent me voir. Je pense vraiment en faire un combo avec mon livre, ventilateur et livre. Mais oui, je rencontre beaucoup de femmes dans les salons du livre. Et puis, c'est toujours des rencontres, on va utiliser chaleureux sans jeu de mots, mais on a toujours des choses à se dire. On sent juste le fait de savoir qu'on n'est pas toute seule, qu'on vit les mêmes choses. Il y a vraiment quelque chose qui est très convivial dans les rencontres, dans les salons du livre. Et puis, évidemment, on se parle de plein de choses. Les femmes ont beaucoup de choses à dire hein, sur leur parcours hormonal. C'est un parcours dont on parle assez rarement. Je le dis dans mon livre, on banalise beaucoup les hormones de femmes, je trouve. Et c'est marquant ce qu'on vit par rapport à nos hormones. Je parle de mes premières règles dans mon livre, de mes grossesses et de ma périménopause. Et puis, c'est étonnant en 2018 de voir que les femmes s'auto-censurent elles-mêmes de leur propre parcours hormonal. Et puis, j'ouvre le canal de la conversation.
Avant Guylaine, que ce n'est pas un sujet super sexy là, non plus.
Non plus, mais c'est la réalité.
Absolument, mais c'est bien.
Il faut la nommer. Faut pas avoir honte de ça.
Merci.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up her home, wounded warriors took her song away. Thank you.
sing when this broken world bends its foolish ways? Then we'll spend our days catching up on life. Oh, because of you, Jenny Wren. You saw who we are, Jenny Wren.
Guylaine Gay, ce qui est très intéressant avec votre livre Dame Mature et vos commentaires, votre réflexion, votre démarche, c'est qu'il y a encore beaucoup de tabous sur les hormones au féminin. On dirait que ce n'est pas pris au sérieux.
Ben, à vrai dire, dans l'histoire de l'homme, les mots de femme ont jamais été dans la liste des priorités, je pense.
Parce que ça fait peur aux hommes.
Ben, ça fait peur aux hommes. Et puis, on peut dire que ça a été longtemps les hommes qui ont géré institutions médicales et etc. Donc, oui, il y a beaucoup de tabous encore en 2018. C'est à peu près la chose qui m'a étonnée le plus en sortant le livre, de voir à quel point les femmes se censuraient quant à l'étalage des symptômes, ne serait-ce que les chaleurs. Quand je leur dis douleurs articulaires puis tout ça, ils associaient même pas ça à la préménopause. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir entendu mes oncles ou des hommes de mon entourage faire des blagues très drôles, paraît-il, sur les chaleurs de leurs femmes, sur le manque de libido de leurs femmes. Et puis moi, c'est rentré dans mon cerveau, j'imagine, et puis peut-être que mon subconscient rendu dans la presque cinquantaine, peut-être que beaucoup de femmes ont entendu des blagues comme ça puis font comme, mais mon Dieu, j'ai pas envie de faire rire de moi, donc je vais pas parler de ça.
C'est ça, on n'ose pas le dire.
Non, mais il faut comprendre que c'est des mots qui sont très réels, hein. C'est la vie qui change. Exactement. Donc, ne serait-ce que pour les hommes et pour les femmes, d'établir la communication sur ça, je pense que c'est ça qui est important de parler. Et dans mon livre, il y a une entrevue avec mon mari. Je voulais absolument que mon mari prenne parole sur ce que lui vit dans tout ça, parce qu'on la vit en équipe, hein, cette préménopause-là. Exactement. Oui. Et quand j'ai écouté l'entrevue, j'avais enregistré l'entrevue, et quand je l'ai écoutée pour l'écrire, j'ai entendu mon conjoint dire 26 fois dans l'entrevue que c'était pas facile. Donc, j'ai comme compris que c'était pas facile non plus de son côté. Et ça, ça a fait en sorte qu'on a pu s'en parler. Mmh. Et on a pu nommer, on a pu dire, ben moi, je me sens comme ça. Mmh. Moi, mon désir est comme ça. Oui, mais le mien. Mmh. Et puis, ça a vraiment ouvert la communication. Puis, le livre, bien humblement, ben j'aimerais qu'il serve à ça, à ouvrir la communication sur ce qui nous arrive. C'est la fin de la période reproductive. Nous, la chope de bébé ferme. On est plus jeunes, on n'est plus des filles fertiles. Donc, c'est un autre pan de notre vie qui commence. Et puis, comment on va le vivre en tant que femme, ce dernier stretch de la vie-là? Puis c'est là que je l'écris dans le livre, je me sens quand... Il y a un bon côté à ça, c'est que je me connais tellement. Je me sens puissante, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie de faire. Et puis moi, j'invite les femmes à faire le point sur leur existence quand tout ça arrive, et de penser à elles. C'est un moment pour penser à nous aussi dans ces années-là qui restent là, de dernier quart de vie.
Parce que ce sont des années de projet, en réalité. Parce que c'est un changement, c'est vrai.
Absolument.
Et ça peut être très positif.
Ben moi, je le voix positif. Il y a les symptômes, évidemment. Tantôt, on a entendu dire que ça arrêtait à un moment donné, tant mieux. Mais je pense que c'est un moment où on s'arrête. On dit où en suis-je dans ma vie? De quoi ai-je envie? Qu'ai-je envie de réaliser? Est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais envie de réaliser? Mes enfants sont grands. Je pense que c'est un moment où on peut prendre plus de temps pour nous, à vrai dire, quand ce temps-là arrive tout simplement.
C'est sûr, Guylaine, on sent vraiment que c'est une espèce de... un changement de cap, hein, être en ménopause, c'est une réflexion, c'est une remontée vers soi-même, c'est une forme de deuil aussi.
Absolument. Et le deuil de la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'à 50, 60 ou 70 ans, on devient atroce et inutile. Au contraire, je trouve que les femmes en pleine possession de leurs moyens sont très belles, sont très sexy. Plus enrobées ne veut pas dire nécessairement à l'aide. Hein. Moi, je suis enrobée depuis toujours, puis je n'ai jamais eu de problème au niveau de la séduction, quel qu'il soit. Donc, moi, en plus, j'encourage les femmes à célébrer le nouveau corps. Oui. Hein, c'est un nouveau corps qui nous est donné. Puis tant que la santé est là, ben profitons-en.
Oui, puis en plus, parlons des aspects positifs. On n'a plus besoin de mettre préservatif avec notre mari. On ne risque plus de tomber enceinte.
Fini les règles. Hein? J'ai rencontré une femme en salon du livre qui m'a dit « Je suis enfin libre. » Puis j'ai aimé la façon très affirmée qu'elle avait de le dire. Libre des règles, d'avoir enfanté, de ne plus enfanter. Donc, je pense qu'il faut, au-delà des symptômes qui sont désagréables, oui, mais qui passent, il faut le voir comme le temps où on se réapproprie notre existence et puis qu'est-ce qu'on en fait nous appartient. Puis je trouve ça beau, moi. Je trouve que c'est un beau moment. En tout cas, moi, j'entrevois les années qui s'en viennent avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de... Je suis plus pétillante, moi, que je l'étais il y a 20 ans. Il y a quelque chose comme l'expérience de vie qu'on appelle qui vient mettre une étincelle de plus sur ma feuille de route. Et puis, ça, c'est pas désagréable.
Donc, ces chaleurs vous donnent un teint de pêche.
Ah, ça, je vous dis que je suis vasodilatée, monsieur, madame.
Merci, Guylaine. La superbe et pétillante Guinengue avec nous. Alors, vous avez vécu cette expérience avec nous, radiophonique. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement au cours de cette émission?
Bien, je trouve que c'est un bel échange. C'est assez rare qu'on a le temps de se déposer en studio et de parler aussi longuement d'un sujet. Donc, merci pour l'invitation. Puis moi, si j'étais auditeur ou auditrice, j'aimerais beaucoup recevoir ces propos-là et des spécialistes et tout ça, vraiment. Et de parler de camps de vacances, bien, ça, j'aime ça parce que ça m'allume beaucoup les camps de vacances. Donc, merci.
Et je vous invite maintenant à poser la question que vous n'avez jamais osé poser à un médecin, mais aujourd'hui, ça sera fait. Qu'est-ce que vous aimeriez poser au docteur Baruel?
Alors, les sites où on peut lire des trucs là, médicaux, là, quand on va chercher, là, est-ce que c'est bon, ça, ces sites-là?
Ah, j'adore ça, ces sites. En tout cas, c'est bien parce que ça cultive la curiosité qu'on peut avoir d'un point de vue médical. Ça me fait penser toujours aux Larousse médicaux qu'on a toujours eu et dans lesquels on trouvait des tas de maladies qu'on avait. C'est exactement la même chose sur Internet. On trouve des tas de maladies, on les a toutes, ouais. Et on trouve un petit peu de tout. Alors on trouve aussi des maladies, mais on trouve aussi des choses, des informations qui sont assez mauvaises.
Ouais. Oh oui.
Très
hein.
Souvent, il y a quelques sites qui sont corrects et qui sont contrôlés et qui sont faits même par des médecins. Mais très souvent, on tombe sur des sites qui sont approximatifs. Et il faut faire très attention à certains sites qui vous proposent principalement de vous soigner en dehors de la médecine, avec un remède miracle, avec des choses comme ça. On s'approche du charlatanisme.
Aussitôt qu'il y a quelque chose à vendre, on peut douter. Chose à vendre,
exactement. Dès l'instant que c'est à vendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même dans certains cas, quand on vous propose quelque chose qui est mieux que la médecine traditionnelle, à mon avis, il n'y a pas de mieux que... C'est tout ensemble. C'est toujours un ensemble. Il y a d'un côté la médecine traditionnelle, puis il y a les médecines complémentaires qu'on a de temps en temps avec la naturopathie. Ça marche, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas d'avis, mais du moment que ça peut faire du bien aux gens, pourquoi pas. Mais en tout cas, la médecine traditionnelle a fait ses preuves. Et dès l'instant qu'on est en dehors de cette médecine traditionnelle sur les sites, là, il faut faire très attention. Ça risque d'être du charlatanisme.
OK. Ouais. Faut être prudent.
En parlant de questions, n'oubliez pas que, gens du public, vous pouvez nous adresser des questions santé par courriel à canalm@vuetvoix.com ou même par le biais des réseaux sociaux.
Chose qui me soit arrivée, une chance que la vie m'a donnée, l'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu, belle éclaircie dans mes yeux. Et un éclair dans mon sang génie, le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie, t'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil, un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu, un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh, ma dose, mon apothéose, mon grand fly. 9 ans, pis j'suis encore ben high. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. Toujours ensoleillé, un feu de joie comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor, tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus, on a le roquet, tout est beau. On peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc baigner tout nu. Fire mon âme, love mon cœur. Fire love, oh Marie ma douceur, t'embellis. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie.
Merci beaucoup, Guy Nandy.
Ben merci, merci beaucoup de m'avoir reçu. Un grand plaisir d'avoir discuté de ça. Et j'invite les femmes à parler de leurs hormones.
On est bien content de tous vous avoir reçus ici à l'émission. Alors, je vous nomme Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des Corps du Québec, et Sonia Boucher, intervenante en santé sexuelle.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon et Benoît Racette à la recherche et à la réalisation.
Qu'on se le dise, être une dame mature, c'est bien tant qu'on s'assume. Ici Catherine Bourderon
et Dr François Baruel,
c'est bon pour la santé.